Ouvrir encore une fois votre Bible à la première page de la Bible, peut-être la page la plus importante de la Bible, premier chapitre de Genèse. Et tout au début de notre culte ce matin, vous m'avez entendu citer cette première question du petit catéchisme, la question et la réponse qui sont bien connu, quel est le but principal de la vie de l'homme? Et nous avons lu la réponse ensemble. Le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Ça veut dire que nous existons pour glorifier Dieu et pour trouver en lui notre bonheur le plus grand, le plus profond. Mais cela nous fait poser une deuxième question. Comment le glorifier? Comment trouver en lui, si nous avons bien envie de le faire, comment trouver en lui notre bonheur? Quelqu'un pourrait me dire, moi je veux bien glorifier Dieu, mais je ne sais pas comment. Et c'est juste, comment savoir comment le glorifier? C'est pour ça que le catéchisme n'est pas limité à une question, parce que la deuxième question du catéchisme, c'est comment Dieu nous fait-il connaître la façon de le glorifier? Et de trouver en lui notre bonheur éternel. Dieu veut que nous le glorifions. Mais où est-ce qu'il nous dit comment le faire? Et la réponse à cette question, la Bible nous indique la façon de le glorifier et de trouver en lui notre bonheur éternel. Donc quand nous ouvrons la Bible, c'est pour mieux connaître Dieu. Pourquoi? Pour avoir des connaissances intellectuelles? Non. Afin de mieux le glorifier et mieux l'aimer. Et voilà notre but en venant à ce chapitre de Genèse. Nous posons la question, qu'est-ce que nous apprenons ici de Dieu? Qu'est-ce que ces versets nous enseignent concernant Dieu? Comment Dieu se révèle-t-il dans ce chapitre? C'est Dieu qui nous a donné cette parole. Que veut-il nous enseigner concernant lui-même dedans? Et je viens de le dire, nous ne voulons pas simplement acquérir des connaissances. Nous ne voulons pas simplement dire, moi j'ai appris des choses sur Dieu. Nous voulons apprendre des choses sur Dieu qui nous poussent à le glorifier davantage, à le louer et à le servir, à nous réjouir en lui. Et nous ne devons pas nous contenter de nos propres idées sur Dieu. Il faut savoir ce que Dieu dit sur lui-même et répondre à ce Dieu, à ce que Dieu dit sur lui-même. Alors nous ouvrons la Bible pour connaître Dieu et pour savoir comment le glorifier, pour glorifier le Dieu qui se révèle dans la Bible. Donc nous étudions Genèse chapitre 1 tout en posant ces questions. Qu'est-ce que ce chapitre me dit au sujet de Dieu? Qu'est-ce que j'apprends de Dieu et comment est-ce que je réponds? Comment est-ce que ça m'aide à le glorifier? Ça doit toujours être notre but en lisant la Bible. Et il y a trois choses que je veux noter. Il y a énormément de choses dans ce chapitre, mais il y a trois choses surtout que je veux noter ce matin en étudiant ce récit de la création. D'abord, la nature trinitaire de Dieu. La nature trinitaire de Dieu. Que veut dire la nature trinitaire? Ce n'est pas un mot qu'on utilise tous les jours. Ça veut dire que Dieu existe en trois personnes distinctes, tout en restant un seul Dieu. C'est ce que nous appelons la Trinité. Tri-unité. Les deux mots ensemble. Trois en un. Comme le nom de ce livre. Et tout de suite, dans cette révélation de Dieu, nous voyons un Dieu trinitaire. C'est une des premières choses qu'il nous montre de lui-même. Dieu le Père prononce les puissantes paroles créatrices que nous avons vues dans ce chapitre. Et Dieu dit, nous lisons ça plusieurs fois, et Dieu dit, l'œuvre créatrice de Dieu le Père est confirmée ailleurs dans la Bible Ésaïe 64, c'est un livre plus tard dans la Bible, nous lisons « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Il dit « Ô Éternel, tu es notre Père. Dieu le Père est celui qui crée, qui prononce la parole. » Et puis dans le verset 2 du chapitre 1 de Genèse, nous lisons « Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. » L'Esprit de Dieu. Ce verbe « planer » correspond à une manière de parler d'un être vivant. Nous voyons ce même verbe dans Deutéronome 32 où nous lisons d'un aigle qui plane au-dessus de ses petits. Alors l'Esprit Saint de Dieu est proche de la création, il y a une proximité, une intimité. L'Esprit de Dieu n'est pas distant. Il est difficile de savoir, je ne vais pas entrer dans les différentes possibilités ce matin, il est difficile de savoir exactement ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire, mais nous savons que c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie physique et spirituelle. Dans le psaume 104, nous lisons « Tu envoies ton esprit, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. » Dieu envoie son esprit pour créer. Dans le livre de Job, nous lisons « L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Alors déjà, nous voyons l'œuvre de Dieu Père et de Dieu l'Esprit, le Saint-Esprit. Et puis nous avons lu ce passage dans Jean chapitre 1, dans ses premiers versets, nous voyons que le Fils de Dieu était l'agent divin qui a mis les paroles de Dieu en œuvre. Parlant de Jésus, la parole de Dieu, Jean écrit « Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Jésus-Christ était à l'œuvre en la création. Dans le livre de Colossiens, dans le Nouveau Testament, nous lisons ces paroles concernant Jésus, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. » En lui, en Jésus, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Et puis écoutez cette phrase, « Tout a été créé par lui » et pour lui, ça parle de Jésus-Christ. Dans le livre des Hébreux, nous lisons « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. » Jésus était à l'œuvre dans la création de l'univers. Bien sûr, c'est un mystère pour nous de comprendre comment ça peut être. Mais l'idée que la Trinité est à l'œuvre dans la création est confirmée aussi dans le verset 26 du chapitre 1 de Genèse, où nous lisons Dieu qui dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Il semble y avoir de la communication, de la collaboration entre les trois personnes de la Trinité. Nous, les créatures pécheresses, nous avons beaucoup de mal à comprendre et à saisir cette doctrine de la Trinité. C'est vrai que le mot « Trinité » ne se trouve nulle part dans la Bible, mais pourtant cette doctrine se trouve depuis le début, dès le début. Il y a un seul Dieu qui existe en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacune de ces personnes est pleinement Dieu. Alors quand nous adorons Dieu, nous adorons Père, Fils et Saint-Esprit. Nous reconnaissons leurs différents rôles tout en gardant un sens de mystère de cette doctrine. Le monsieur qui a écrit ce bouquin-là, un monsieur américain, il a écrit sur la doctrine de la Trinité. Il est faux de dire que nous ne pouvons pas comprendre du tout la doctrine de la Trinité. Nous pouvons comprendre certaines choses parce que la Bible les enseigne. Néanmoins, et écoutez bien, il est spirituellement sain de reconnaître clairement que l'être même de Dieu dépasse notre compréhension. Cela nous garde une continue dans l'humilité devant Dieu et nous pousse à adorer sans réserve. Puisque nous sommes des créatures finies et non des êtres omniscients, il y aura toujours des choses que nous ne comprendrons pas pleinement. J'aime surtout cette phrase. Cela nous garde dans l'humilité devant Dieu et nous pousse à l'adorer sans réserve. Pourquoi nous lisons ce chapitre? Pour pouvoir mieux adorer Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Dans notre prochaine prédication, dans quelques semaines, nous allons considérer notre réponse à la création. Et une des choses que la création nous pousse à faire, c'est adorer, louer le Dieu qui a tout créé. Mais dans ce récit, nous voyons la collaboration des trois personnes de Dieu. Et notre réponse doit être une réponse d'adoration et de louange. Alors ça, c'est la première chose que nous voyons. Mais la deuxième chose que nous voyons dans ce chapitre, c'est l'ordre que Dieu fait paraître du chaos. Dans le verset 2, nous lisons « La terre était informe et vide. » La terre était informe et vide. Et encore une fois, nous avons beaucoup de mal à imaginer un tel monde. Sans forme, sans vie, sans beauté. Et puis ce qui rend cet endroit encore plus chaotique, c'est le fait qu'il y a des ténèbres sur la surface de l'abîme. C'est la terre telle que Dieu l'a créée au début. Et un commentateur décrit très bien ce qui se passe ici, quand il dit « Tout comme un potier qui va créer un beau vase commence avec un gros morceau d'argile, il le pose sur son tour de potier et commence à façonner exactement comme il le veut. Ainsi, le Créateur a créé une terre informe et vide avec l'intention de créer de l'ordre et de la beauté. » Et si vous étudiez bien ce récit de la création, vous allez y trouver un ordre, une structure à tout ce que Dieu fait. Dans les trois premiers jours, Dieu crée, il donne de la forme à la terre. Et puis dans les quatrième, cinquième, sixième jours, il remplit tout ce qu'il vient de créer et de préparer. Et ça correspond exactement. Quatrième jour, premier jour, quatrième jour. Deuxième jour, cinquième jour. Troisième jour, sixième jour. Il y a de l'ordre qui sort du chaos de Dieu, de ce monde. Le premier jour, il a créé la lumière, le jour et la nuit. La lumière provient de Dieu lui-même. Donc il est tout à fait possible qu'il y ait de la lumière sans le soleil et la lune à ce moment-là. Mais le quatrième jour, il crée des astres, le soleil, la lune. Le deuxième jour, il crée la mer et le ciel. Et puis le cinquième jour, il les remplit. Verset 20, Dieu dit que les eaux se mettent à grouiller d'êtres vivants. Et ainsi de suite. Et puis le troisième jour, Dieu crée une terre fertile. Et le sixième jour, il la remplit. Verset 24, que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, et ainsi de suite. Alors vous voyez l'organisation de son travail créateur. Et la façon dont Dieu a créé et formé et rempli la terre, ça nous parle de son caractère, de sa sagesse. Ce n'est pas une création au hasard. Dieu ne dit jamais, bon, qu'est-ce que je ferai ensuite ? Il a tout planifié, même avant la création du monde. Il y a une structure bien réfléchie. Il y a une précision, une beauté, une complexité époustouflante. Dieu est le Dieu qui passe ses desseins aux actes. Il accomplit tout ce qu'il avait planifié. Dieu n'est pas un Dieu de chaos, mais plutôt un Dieu qui transforme le chaos en créant quelque chose de beau, de complet, de merveilleux. Mais ceux qui nient l'existence de Dieu, eux, ils nous demandent de croire que l'univers est le fruit du hasard. Il n'y a aucun créateur, aucune logique, aucun dessein intelligent. On nous demande de croire que le monde est le produit d'un assemblage fortuit d'atomes. Pensez à l'ajustement fin de l'univers. La chance sur 1 milliard de milliards que notre univers permette à la vie organique et humaine d'exister. 1 milliard de milliards. Et l'athée nous demande simplement de croire que c'est comme ça, par hasard. On nous dit que la science a démontré la fausseté de Dieu. Mais la réalité, c'est qu'aucune activité scientifique ne serait possible sans les lois et sans les structures que Dieu a mises en place. La science est possible parce que Dieu a créé là où il y a des lois et des structures. Dieu a mis en place une régularité dans la nature qu'il est possible d'étudier. Dieu a créé et il maintient un univers ordonné. Et ce que Dieu a fait dans l'univers, chaque chrétien peut témoigner de cette même œuvre créatrice et rédemptrice dans le cœur de l'être humain. Dieu a créé de l'ordre où il y avait du désordre. Et nous pouvons témoigner de ce que nous étions sans Dieu, sans espérance, sans paix, sans pardon de notre péché. Et Dieu a transformé tout ça. Encore un verset que nous avons considéré dimanche dernier. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mes amis, le Dieu qui a créé l'univers, l'ordre et la beauté de l'univers, il est le même Dieu qui est à l'œuvre en nous. Faites-lui confiance. Il sait ce qu'il fait. Il a donné son dessein éternel. Il a son dessein éternel pour vous. Et peut-être des fois, vous êtes tenté de penser que le chaos règne toujours en votre vie. Mais si vous êtes chrétien, Dieu est en train d'accomplir sa volonté pour vous. Il est en train de vous transformer, de créer de l'ordre où il y avait du chaos. Peut-être que vous voyez des situations dans votre vie et vous dites, la lutte contre le péché, le désordre, c'est impossible. J'ai essayé de changer, mais ça n'a pas marché. Mais si vous êtes chrétien, Dieu le Saint-Esprit, qui était à l'œuvre dans la création, il vit en vous pour transformer le chaos en ordre. Pour changer le chaos en paix, en beauté, dans n'importe quelle situation. N'importe quelle situation. Dieu est capable de la transformer. Le cœur le plus agité, le plus troublé, Dieu est capable de créer de l'ordre. Le cœur, la vie la plus chaotique, Dieu peut le transformer. Et nous avons tous vu la preuve des vies transformées par l'œuvre de Dieu. Il n'est pas là aujourd'hui, mais pour ceux qui le connaissent, si vous connaissez Xavier, il faut lui demander de parler de sa vie avant Jésus-Christ. C'était le chaos. C'était le chaos. Et il a rencontré Jésus-Christ. Et maintenant, c'est la paix, c'est l'ordre, ça a été transformé grâce à l'œuvre de Dieu en lui. Et il n'hésite pas à témoigner de cette transformation en sa vie. Donc Dieu est le Dieu qui transforme le chaos en ordre et en beauté, en paix. Alors nous voyons le Dieu trinitaire, le Dieu qui transforme le chaos en ordre et en beauté. Et puis, pour terminer, nous voyons aussi la souveraineté de Dieu en toutes choses. À la naissance de notre fils, c'était nous qui avons choisi son nom. Bien sûr, on avait déjà choisi un nom il y a des mois avant sa naissance, et nous avons changé d'avis 2 heures avant son arrivée, mais nous avions le droit. Ce n'était pas pour les sages-femmes, ce n'était pas pour les médecins, ce n'était pas pour l'État de nous dire comment il fallait l'appeler. Nous, nous étions souverains, parce que c'était nous qui l'avions créé. Et si un sculpteur, il crée une œuvre d'art, c'est lui qui donne un nom à son œuvre. C'est le sculpteur qui a créé, donc c'est lui qui donne le nom. Et dans la Bible, donner un nom à quelque chose veut dire être souverain là-dessus. Alors quand nous pouvons lire des récits des rois qui ont gagné des batailles, qui ont donné un nouveau nom au roi qui était vaincu. Vous connaissez peut-être Daniel et ses amis qui sont partis en Babylone. On leur a donné un nouveau nom pour montrer qu'on était souverain au-dessus d'eux. Ils n'étaient plus souverains dans leur vie. Et dans ce chapitre, nous l'avons lu 5 fois, et peut-être vous n'avez pas réfléchi à ça. Et Dieu appela. Et Dieu appela. Et Dieu appela. Pourquoi Dieu a-t-il appelé? Parce que Dieu était souverain. Dieu est celui qui a créé. Dieu appela l'étendue ciel. Dieu appela la lumière jour. Dieu est donc celui qui donne un nom à tout ce qu'il crée. Et en tant que créateur, il a le droit de le faire. Et le Dieu souverain a le droit aussi d'attribuer un but ou une raison d'être. Regardez le verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Et puis ce petit mot « pour ». Dieu décide ce qu'il doit être. Et après, il dit « pourquoi ?»« Pour séparer les eaux des eaux ». Et nous voyons ça à maintes reprises, verset 14, qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les temps. Dieu donne le but, l'objectif, la fonction, si vous voulez, de tout ce qu'il crée. Verset 15, que ce soit des astres pour éclairer la terre. C'est Dieu qui crée toutes choses et Dieu qui donne une raison pour toute chose. Toute la création est sous l'autorité de Dieu et trouve sa vraie raison d'être en Dieu. Dieu crée des choses. Il leur donne leur raison d'être et leur fonction. Et on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin avec cette idée. Si vous pensez au corps humain que Dieu a créé, moi, j'ai lu des choses sur le corps humain, je ne suis pas scientifique, j'ai jamais trop étudié la biologie. Et apparemment, il y a 200 os, 600 muscles, 100 articulations qui savent fonctionner ensemble pour répondre au signal du cerveau. Comment est-ce qu'ils savent faire ça? Parce que Dieu les a créés pour faire ça, pour savoir avec cette intelligence. Le foie humain a plus de 500 fonctions essentielles. Les reins ne pèsent que 280 grammes, mais ils ont 1 million d'éléments qui fonctionnent ensemble. Les poumons contiennent 300 millions de petites poches d'air qui fonctionnent ensemble. Le corps humain contient 10 000 trillions atomes qui ont tous leur rôle à jouer. Comment est-ce qu'ils savent quoi faire? C'est le fruit du hasard? Non, c'est Dieu qui a créé tout ça. D'où vient cette intelligence? C'est Dieu qui l'a donné. Genèse 1 nous dit que c'est Dieu. Tout ça vient de Dieu. Et ceux qui nient l'existence du Créateur nous demande de croire que le hasard a produit des êtres si complexes. Mais toutes les preuves indiquent un Créateur intelligent et la Bible nous dit que c'est Dieu. Nous avons chanté le psaume 139. C'est toi qui as formé mon corps, c'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue car je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et en allant encore plus loin, nous savons que la raison principale pour tout ce qui existe, c'est pour glorifier Dieu, pour montrer sa puissance et sa gloire. Oui, Dieu, il donne un rôle précis au soleil, à la lune, à la terre, aux muscles. Mais le but primordial de toutes ces choses, c'est de rendre gloire à Dieu. Nous allons chanter tout à l'heure dans le psaume 19 de comment le ciel raconte la gloire de Dieu. Et je reviens au verset que nous trouvons dans Colossiens 1. En parlant de Jésus-Christ, nous lisons « Tout a été créé par lui et pour lui. » Pour lui. L'univers existe pour manifester la gloire de Dieu. Au ciel, Jésus est loué et adoré grâce à la création. Nous lisons dans le dernier livre de la Bible, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Pourquoi ? Car tu as créé toutes choses et que c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Tu es digne. Pourquoi ? Parce que tu as créé. » Un écrivain anglais a écrit, si on met de côté l'existence de Dieu, la réalité est tellement dure à avaler que la plupart des gens ne veulent pas la regarder en face. Il n'y a pas de sens à la vie et la vie n'a donc aucun sens. Le philosophe français Jean-Paul Sartre, qui a nié l'existence de Dieu, il a écrit dans son livre « La nausée » J'étais apparu par hasard. J'existais comme une pierre, une plante, un microbe. Je ne sentais rien qu'un bourdonnement sans conséquence. Nous voilà, tous autant que nous sommes, à manger et à boire pour conserver notre précieuse existence. Et qu'il n'y a rien, rien, aucune raison d'exister. Sartre dit, si Dieu n'existe pas, je n'ai aucune raison d'exister. Et c'est vrai, si Dieu n'existe pas. Mais Dieu existe. Dieu existe, il nous a créés, il nous a donné notre nom, il nous a donné notre rôle et notre raison d'être suprême. L'érudit grec Platon a décrit l'homme ainsi. Un être vivant qui cherche un sens dans la vie. Et nous savons que cet être vivant ne trouvera pas ce sens s'il ne le cherche pas en Dieu. J'ai lu récemment une interview avec Johnny Wilkinson. Si vous regardez les matchs de rugby, vous allez voir les publicités de la Société Générale. Rien n'est plus beau que l'esprit d'équipe. Ce fameux Johnny Wilkinson qui a gagné la Coupe du Monde avec l'Angleterre. Et Wilkinson a dit, je venais de réaliser mon plus grand rêve en gagnant la Coupe du Monde. Mais dans mon fort intérieur, il y avait un énorme vide. Et certains d'entre vous vont vous souvenir de Boris Becker, qui est un grand joueur de tennis qui a gagné Wimbledon, je pense, à 17 ans. Ce tennisman allemand a dit « J'avais tout. J'étais riche. J'avais tout ce que je voulais. Voiture, argent, femme, tout. » Mais j'étais tellement malheureux. Je n'avais pas de paix. Deux grands champions qui avaient bien réussi dans leur vie, mais dans leur fort intérieur, il y avait du chaos, un manque de paix, un vide. C'était comme s'ils savaient que leur but dans la vie était beaucoup plus que la réussite sportive. Et je pense que nous tous, nous avons expérimenter ce chaos et ce vide, ce manque de paix. Peut-être que certains l'expérimentent toujours. Et à la lumière de ce chapitre, ce que nous venons de lire, je dois vous dire que vous allez continuer à sentir ce vide et ce manquement si vous ne cherchez pas votre raison d'être, le sens de votre vie en Dieu. Si vous ne vous rendez pas compte que vous avez été créé pour connaître Dieu. avant de rechercher le sens dans votre vie, dans votre famille, dans votre travail, dans vos loisirs, dans vos biens, les possessions, il faut que vous soyez réconciliés avec Dieu, le Dieu qui vous a créé. Et si vous n'êtes pas encore chrétien, il faut savoir que le Dieu souverain, Père, Fils et Saint-Esprit, qui a créé de l'ordre où il y avait du désordre, il vous voit dans le chaos de votre vie. Il vous voit dans le péché et la rébellion. Il voit la futilité de votre vie. Il vous voit loin de lui. Et la Bible dit « mort dans votre péché, aveugle à des réalités spirituelles ». Mais en Jésus-Christ, Dieu peut vous transformer. Il peut vous rendre la vie. Il peut vous remplir. Il peut remplir le vide de votre cœur avec une reconnaissance et un amour. Il remplit le vide de futilité en vous donnant un nouveau sens dans votre vie, une nouvelle signification. Vous existez pour connaître et aimer Dieu. Mais il faut venir à lui, humblement, en confessant votre besoin, votre péché, en lui demandant humblement et sincèrement de créer en vous un cœur nouveau. Nous avons chanté de ça tout à l'heure. Et je vous assure, je vous garantis que le même Dieu qui est décrit dans Genèse 1, ce même Dieu viendra à vous et va vous transformer. Il a promis. Il a promis. Ce même Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui est puissant et souverain, il peut vous transformer si vous venez à lui. Et c'est à ce Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, que nous prions que toute la gloire et la puissance soient à lui. Amen. Amen.